journal est présenté par Antoine de Necher.
Bonsoir. Le meurtrier présumé de la députée britannique Jo Cox s'est fait provocateur pour sa première comparution aujourd'hui devant un tribunal. Thomas Smer est incarcéré, il sera de nouveau présenté à la justice lundi prochain. Marina Daras nous appelle de Londres dans un instant. En France, il y aura bien une primaire à gauche aussi avant la présidentielle. Les dirigeants du Parti socialiste viennent de prendre cette décision à l'unanimité. Cette primaire sera ouverte à tous ceux qui soutiennent la démarche et François Hollande pourra ou devra donc s'y soumettre. Ban Ki-moon poursuit sa visite historique en Grèce. Le secrétaire général des Nations Unies a visité un camp de réfugiés sur l'île de Lesbos. Aujourd'hui, il demande plus de solidarité avec la Grèce. Puis Vivendi vient d'ouvrir un cinéma au Cameroun, une première en Afrique pour le groupe de Vincent Bolloré qui continue sa politique d'investissement tous azimuts sur ce continent. Décryptage de Sarah Petitbon en fin de journal. À Londres, l'homme suspecté du meurtre de Jo Cox jeudi dernier dans le nord de l'Angleterre a donc été présenté à un juge pour la toute première fois ce matin devant le tribunal de Westminster. Thomas Smer qui s'est donc exprimé pour la première fois, Marina Daras.
Thomas Smer, le meurtrier présumé de la députée britannique, a crié « mort aux traîtres, liberté pour le Royaume-Uni » lorsque le tribunal lui a demandé de décliner son identité. Il est resté silencieux le reste du temps, mais cette déclaration ne fait que confirmer le motif politique et idéologique de cette attaque contre l'élu travailliste. Plusieurs témoins l'avaient entendu crier « Britain first », la Grande-Bretagne d'abord, au moment où il s'était attaqué à sa victime dans sa circonscription de Birstall, au nord de l'Angleterre. Thomas Smer fait maintenant l'objet d'une enquête par la branche antiterroriste du parquet britannique du fait de ses relations avec certains groupuscules d'extrême droite. Des documents sur la fabrication d'armes à feu et d'explosifs auraient aussi été retrouvés à son domicile par les enquêteurs. L'homme de 52 ans, qui avait déjà été traité pour des problèmes psychologiques, a été inculpé d'homicide volontaire, coups et blessures et possession d'une arme offensive et devrait comparaître devant la haute cour criminelle du Old Bailey ce lundi.
Et avant cette audience lundi prochain, Thomas Smer est donc incarcéré dans une prison de haute sécurité en Angleterre et le tribunal de Westminster a également demandé une expertise psychiatrique. Et voilà, comme prévu, Jean-Christophe Cambadélis a pris tous les observateurs et les militants PS de court, très probablement en accord avec François Hollande. Le patron du PS a proposé cet après-midi aux membres du Conseil national de son parti d'organiser une primaire en janvier 2017 pour désigner le candidat à la présidence. L'idée a été validée à l'unanimité il y a quelques instants, ce qui veut dire que pour la première fois, un chef de l'État sortant pourrait bien être soumis au vote interne d'au moins une partie de la gauche, si jamais François Hollande est candidat évidemment, mais ça oblige également les autres candidats potentiels comme Arnaud Montebourg à se dévoiler. Écoutez Jean-Christophe Cambadélis il y a quelques instants.
Évidemment, c'est un risque. Quand vous êtes candidat à une primaire, vous n'êtes pas certain de l'emporter. Mais il faudrait d'abord que le président de la République soit candidat. Et à cette étape, on ne le sait pas. Ne vous précipitez pas. Ne faites pas tout de suite des sondages. Est-ce que c'est un risque pour Benoît Hamon ? Vraisemblablement. Est-ce que c'est un risque pour Arnaud Montebourg ? Assurément. Est-ce que c'est un risque pour Marie-Noël Lienemann ? Certainement. Est-ce que c'est un risque pour Gérard Filoche ? Je le pense. Est-ce que ce n'est pas une difficulté pour ceux qui ne sont pas présidentiables ? De concourir avec un président qui a été président. Une fois qu'on a posé cette question, je pense que c'est faire preuve de modernité, que d'accepter, somme toute, de remettre en jeu son mandat. Je ne sais pas si le président de la République le fera, je ne sais pas s'il sera candidat. Mais moi, je trouve que s'il le faisait, ça aurait du panache.
Jean-Christophe Cambadélis, interrogé tout à l'heure à l'issue du Conseil national du PS par Laurence Perron. Après le meurtre d'un couple de policiers à Magnanville lundi dernier dans les Yvelines, une information judiciaire a été ouverte aujourd'hui. Deux proches du tueur présumé ont été déférés au parquet en vue d'une mise en examen du chef de participation d'associations de malfaiteurs terroristes. Ces deux hommes de 27 et 29 ans avaient été arrêtés mardi dernier au lendemain de ce crime perpétré par Larossi Abala au nom de l'organisation État islamique. Puis en Belgique, 12 personnes ont été interpellées et plusieurs dizaines de perquisitions ont été menées dans différents endroits du pays, notamment à Bruxelles la nuit dernière. Cette vaste opération antiterroriste ne pouvait pas attendre plus longtemps au regard des éléments recueillis par la police, a expliqué le parquet fédéral belge sans plus de précision. Un convoi de vivres destiné aux migrants de la jungle de Calais est bloqué depuis ce matin sur le port de Douvres en Angleterre. 250 véhicules étaient partis de Londres dans le cadre d'une opération lancée par plusieurs associations britanniques comme Stop the War ou People's Assembly. Mais la préfecture du Pas-de-Calais a publié un arrêté hier pour interdire ce convoi, jugeant qu'elle n'a pas les moyens de superviser une telle distribution en ce moment, elle qui doit déjà gérer la sécurité des matchs de l'Euro dans la ville de Lens. La crise migratoire concerne donc Calais, mais aussi à l'autre extrémité de l'Europe, elle concerne la Grèce. Malgré l'accord signé en mars entre l'Union européenne et la Turquie, censé juguler ce flux migratoire, il faut savoir que 2500 migrants seraient morts en Méditerranée depuis le début de l'année en tentant de rallier la Grèce. Plus de 6500 migrants attendent toujours qu'on statue sur leur sort dans des camps en Grèce. Et puis 600 ont déjà été renvoyés vers la Turquie d'où ils venaient. D'où cette visite historique aujourd'hui du secrétaire général de l'ONU en Grèce. Pour Ban Ki-moon, je cite, la Grèce doit bénéficier d'un soutien plus appuyé de l'Europe et du monde pour l'aider à surmonter la crise des migrants. C'est une correspondance d'Angélique Couronis à Athènes.
C'est une crise de solidarité, pas une crise migratoire. Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, a donné le ton de sa visite inédite en Grèce. Une visite de 3 jours, commencée hier, où il doit rencontrer les plus hautes instances dirigeantes du pays, le Premier ministre, le Président de la République, le chef de l'opposition, mais aussi des volontaires qui travaillent jour et nuit pour soulager le quotidien des réfugiés et migrants piégés en Grèce. Le Premier ministre grec Alexis Tsipras lui a offert un gilet de sauvetage ramassé, comme des milliers d'autres, sur les côtes grecques. C'est un cadeau symbolique, un outil de vie pour des milliers de réfugiés qui sont arrivés sur les îles en traversant la mer Égée, a souligné le Premier ministre grec. Des plages que Ban Ki-moon a pu voir de lui-même à Lesbos, où il s'est rendu ce samedi pour rencontrer des responsables du centre d'accueil devenu centre de rétention depuis la signature de l'accord de renvoi des migrants et réfugiés entre l'Union européenne et la Turquie. Ban Ki-moon a parlé aussi avec les volontaires qui se relaient au centre de Karatepe pour soulager le quotidien de ces réfugiés avant de déjeuner sur le port avec ses volontaires, mais aussi avec des familles entière de réfugiés et migrants de toutes les nationalités. Il a publiquement loué les efforts remarquables, dit-il, des Grecs pour gérer cette crise, mais il a appelé à plus de solidarité du monde pour aider Athènes à continuer à faire face à la situation.
En Égypte, l'ancien président islamiste Mohamed Morsi, destitué par l'armée en 2013, a été de nouveau condamné aujourd'hui à une nouvelle peine de prison à vie. Il s'agit de sa 4e condamnation. Dans cette affaire, Mohamed Morsi comparaissait avec 10 co-accusés pour le vol de documents relevant de la sécurité nationale et leur livraison ensuite au Qatar. Après les ports et le réseau ferroviaire, Vivendi vient d'ouvrir une salle de cinéma en Afrique pour la première fois. C'était mardi dernier à Yaoundé, au Cameroun. Vincent Bolloré, le président du conseil de surveillance de Vivendi, poursuit ainsi ses investissements sur le continent africain en occupant le terrain du divertissement et des médias. C'est un dossier signé Sarah Petitbon.
Le complexe est implanté sur le campus universitaire de Yaoundé, au plus près de cette jeunesse, future classe moyenne du pays que le groupe Vivendi entend conquérir. Baptisée Canal Olympia, elle se veut une salle pilote dédiée à la projection de films et à l'organisation de concerts. Pilote, car elle est la première d'une longue série. Le groupe compte en ouvrir plusieurs dizaines en Afrique de l'Ouest dans les années à venir. Un marché très prometteur pour Vivendi, déjà bien implanté sur le continent africain, comme l'explique Corinne Bach, elle est la directrice générale de Canal Olympia.
Nous étions convaincus que nous avions des atouts pour réussir dans ce nouveau marché, du fait des contenus dont dispose Studio Canal, des artistes Universal. Et donc on s'est dit, voilà, l'opportunité est là, d'autant plus que le groupe Canal est présent en Afrique depuis plus de 20 ans et a une base de clients importants et une notoriété importante.
Une opportunité en or, renforcée par le fait que cette salle de cinéma est aujourd'hui la seule dans le pays. Pour la journaliste camerounaise Denise Epoté, directrice régionale de TV5 Monde Afrique, il y avait donc un vide à combler.
Les principales capitales africaines dans ces pays ne disposent plus de salles de spectacle depuis fort longtemps. C'est vrai qu'il a existé il y a une trentaine d'années des palais de congrès qui avaient été construits par les Chinois, mais ils ne sont plus adaptés à l'évolution technologique de la scène artistique aujourd'hui. Donc ça correspond vraiment à une demande, à une attente.
Joli coup pour Vivendi donc, mais aussi et surtout pour Vincent Bolloré, président du conseil de surveillance de l'entreprise. L'industriel breton très actif au Cameroun dans les secteurs ferroviaires et portuaires, mais aussi dans les plantations de palmier à huile, accroît encore son influence dans le pays, comme l'analyse le journaliste Antoine Glaser, auteur de l'ouvrage « Arrogant comme un Français en Afrique ».
C'est une vraie stratégie à long terme, après avoir été finalement dans le hard power, après les matières premières stratégiques, les ports et les chemins de fer sur l'ensemble du continent, en particulier en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. C'est vrai qu'il y a une vraie stratégie maintenant dans tout ce qui est communication. Le Cameroun, c'est très fort de sa part parce qu'il a été contesté dans tout ce qui était les plantations de palmiers à huile ou autres dans l'agro-industrie. Et c'est vrai qu'au Cameroun, il est vraiment en position dominante dans les infrastructures ferroviaires. Et maintenant, il va renforcer sa position au Cameroun, c'est certain.
Deux autres salles de cinéma devraient encore ouvrir dans les prochains mois au Cameroun.
Un dossier signé Sarah Petitbon pour France Culture. La météo, demain, des orages forts attendus sur l'extrême sud-est et sur la Corse, tandis que les températures seront fraîches pour la saison sur le pays. Il fera de 9 degrés au nord demain matin jusqu'à 17 au sud. Merci à Brice Garcia pour son aide et à Jean Guilain-Mège à la prise de son.